Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment passionnant, l'importance qui ne cesse de grandir des compétences humaines, les fameux soft skills, au Maroc. Et pour ça, on va s'appuyer sur un dossier spécial très très riche publié par IMAG. Ce dossier y met en lumière ce qu'il appelle une révolution silencieuse. Alors attention, hein, pas de grands plans industriels, pas de réformes académiques à la une, non, c'est quelque chose de plus subtil. C'est la prise de conscience, en fait, que ces qualités relationnelles, émotionnelles, eh bien, elles redessinent complètement les règles du jeu, aussi bien dans le travail que pour le leadership et même pour le bien-être personnel au Maroc aujourd'hui.
Oui, c'est tout à fait ça. Et notre objectif, là, ensemble, c'est vraiment de décortiquer ce phénomène. Pourquoi est-ce que ces compétences, qu'on a peut-être longtemps vues comme secondaires, pourquoi sont-elles devenues si, si décisives? On va essayer d'extraire les idées clés, les exemples les plus frappants de ces articles pour bien comprendre comment concrètement elles transforment les parcours pro, les dynamiques de management et même, oui, certains aspects de la vie sociale, de la vie intime au Maroc.
Exactement. Alors préparons-nous à découvrir pourquoi l'avenir du Maroc, et sans doute ailleurs aussi, pourrait bien dépendre de cette dimension soft, qui, on va le voir, est loin d'être une faiblesse. C'est plutôt une clé, en fait. Une clé pour la réussite et puis pour le bien-être de tous. Allons-y, décortiquons ça. Bon, pour commencer, histoire d'être clair, qu'est-ce qu'on entend exactement par soft skills ? Le dossier les définit comme un ensemble assez large de qualités humaines, interpersonnelles, par exemple bien communiquer, savoir travailler en équipe, résoudre des conflits, gérer son stress aussi, s'adapter, l'écoute active, faire preuve d'intelligence émotionnelle, oser prendre la parole, c'est vaste.
C'est le fameux savoir-être hein, qui vient vraiment compléter et parfois même, on le voit, prendre le pas sur le simple savoir-faire. D'ailleurs, les articles insistent beaucoup là-dessus. Hein. Le diplôme, bon, ce n'est plus le sésame automatique. L'expertise technique, les hard skills, ça perd de son impact si on n'a pas les soft skills pour l'incarner, pour la rendre utile. On donne cet exemple assez parlant, je trouve, d'un jeune diplômé de Safi ou d'Oujda. S'il maîtrise bien ses codes du savoir-être, eh bien, il peut tout à fait décrocher un bon poste à Casablanca face à un autre candidat, peut-être diplômé de Paris, mais qui serait moins à l'aise, moins adapté au contexte local.
Oui, et il y a ce témoignage d'un recruteur de Rabat, ça m'a marqué. Il dit carrément préférer un profil peut-être moins diplômé, mais je cite « pro ». À l'heure, motivé, qui sait interagir.
L'interaction.
Plutôt qu'un major de promo qui s'exprime comme un robot. Ça, c'est un sacré changement de paradigme.
Ah oui, absolument. Et c'est bien pour ça que les articles insistent sur l'urgence d'intégrer ces compétences, mais bien plus tôt, dès l'université, voire avant. Ce n'est plus une option, quoi. C'est présenté comme les fondations mêmes de l'employabilité durable. Il faut vraiment apprendre aux jeunes à pitcher une idée, à gérer leur temps, à adopter une posture pro, à communiquer avec bienveillance aussi. C'est fondamental.
On comprend mieux pourquoi l'édito parle d'une nouvelle grammaire des compétences. Ce n'est plus juste ce qu'on sait.
Non, c'est comment on l'utilise et comment on est avec les autres.
C'est ça. Et ce changement, il ne touche pas que les jeunes diplômés. Ça impacte aussi le management, non ? Fini le manager autoritaire, vertical ? Un peu distant.
C'est en tout cas ce que suggèrent fortement les textes. Le leader efficace aujourd'hui, c'est celui qui inspire, celui qui influence positivement, qui communique avec impact, qui gère les émotions, les siennes, mais aussi celles des autres, qui mobilise l'intelligence collective. D'ailleurs, l'article sur le leadership cite des compétences clés. L'écoute active, la communication assertive, savoir dire les choses fermement mais avec respect, l'empathie, l'intelligence émotionnelle, bien sûr, et cette capacité à donner un feedback qui soit vraiment constructif.
Il y a une anecdote intéressante d'une formatrice dans le dossier. Elle animait un atelier pour les managers de demain, et les étudiants étaient surpris quand elle décrivait un leader humain, bienveillant.
Ah oui ?
Oui, eux, ils imaginaient plutôt quelqu'un de strict, de rigide. Ça montre bien le chemin qui reste à faire, hein.
Oui, ça montre le décalage entre l'imaginaire et les besoins réels. Et pourtant, les transformations, elles sont là, sur le terrain. On a des cadres qui découvrent qu'ils obtiennent bien plus en influençant qu'en ordonnant. Il y a cet exemple du manager qui, au départ, considérait son équipe comme des bras cassés. C'est assez parlant. Et après une formation sur l'affirmation de soi, sur l'art de déléguer, eh bien, il s'est promis de leur faire confiance, de changer d'approche. Donc ce leadership soft, ce n'est pas de la gentillesse un peu naïve, hein. C'est vraiment une compétence stratégique. Une compétence pour gérer la complexité humaine et pour fédérer.
C'est très clair. Et le dossier fait aussi un lien très fort entre ces compétences et le bien-être, surtout au travail. Comment ça se manifeste, ce lien?
Mais souvent, ce qui ressort, c'est que le mal-être au travail, le stress, la démotivation, ça ne vient pas forcément d'un manque de moyens, en fait. Ça vient très souvent d'un déficit de communication, d'un manque d'écoute, de reconnaissance ou de clarté dans les attentes. Un manager peut être excellent techniquement, mais s'il est incapable d'écouter, il peut épuiser son équipe. Inversement, savoir dire non sans culpabiliser, savoir donner un feedback constructif, apaiser les tensions avec intelligence émotionnelle, tout ça, ce sont, comme le dit le dossier, des piliers invisibles du bien-être collectif.
Et ça dépasse même le cadre strictement professionnel, si je comprends bien. L'article sur le burn-out des femmes marocaines est assez frappant. Il décrit cet épuisement silencieux lié à la charge mentale énorme.
Oui, la pression d'être parfaite partout.
Exactement. Et puis le tabou autour de la santé mentale, cette injonction culturelle à tenir bon, à ne rien montrer.
Tout à fait. Et la solution, elle passe aussi par des compétences comportementales. Apprendre à nommer le problème déjà, oser alléger la charge, dire non, déléguer, oser demander de l'aide, briser le silence surtout. C'est lié à cet autre article, prendre soin de soi sans culpabiliser. Il dénonce un peu cette culture du sacrifice et revendique le droit au repos, à l'écoute de soi, non pas comme un luxe, mais comme une nécessité.
Et pour finir sur ce thème du bien-être, il y a cette réflexion sur la résilience émotionnelle, face aux blessures invisibles, un deuil, une rupture, un échec. Dans une société qui pousse parfois à oublier vite, l'article suggère que la résilience, c'est plutôt reconnaître la douleur, c'est chercher l'écoute et puis essayer de transformer l'épreuve, même si la cicatrice reste.
C'est une approche beaucoup plus constructive, effectivement.
On voit bien donc que ces compétences irriguent tous les aspects de la vie, pas seulement le travail. L'article sur les changements de vie après 40 ans, par exemple, montre bien cette quête de sens qui émerge.
Oui, exactement. Il parle de réorientation professionnelle, comme cette cadre bancaire qui devient formatrice, mais il parle aussi de développement personnel, de la découverte du non qui libère, parfois d'un retour aux sources. C'est une vraie remise en question des schémas établis, quoi.
Le dossier aborde aussi des sujets plus délicats, celui sur l'hypocrisie sociale et religieuse, par exemple. Il pointe ce décalage entre les discours publics, les valeurs affichées, et puis certaines pratiques privées.
Oui, et selon l'analyse, ça peut créer une sorte de société de la méfiance, où l'apparence prime sur la sincérité. Ce qui nous amène d'ailleurs au dilemme des parents. Faut-il tout dire à ses enfants? C'est cet héritage du silence face à une génération Z ultra connectée. L'enjeu, c'est de trouver le bon équilibre, parler avec discernement, adapter, mais surtout créer un climat de confiance, pour éviter que l'enfant n'aille chercher des réponses ailleurs, parfois là où il ne faut pas.
C'est toute la question du dialogue intergénérationnel. Le dossier s'y attarde aussi, par exemple, sur la manière de vieillir. Comment vieillir autrement que par le retrait? L'article montre des seniors actifs, qui apprennent, qui s'engagent, qui utilisent le numérique.
Oui, ça casse un peu le cliché du vieux sage silencieux. C'est un appel à renforcer ce lien entre générations. Et de la même manière, la figure du père évolue. L'article « Être père au Maroc » décrit ce passage d'une autorité distante à une présence plus aimante, plus impliquée émotionnellement, même s'il y a encore des freins culturels, un manque de modèle peut-être. Et il souligne l'importance de la relation père-fille, souvent sous-estimée.
Et bien sûr, impossible de parler de relation sans évoquer la technologie. L'article sur la fracture numérique montre comment ça peut créer un dialogue de sourds entre générations et même isolé, paradoxalement.
Oui, malgré l'hyperconnexion indiente. Et pour finir ce tour d'horizon social, il y a deux thèmes plus introspectifs. D'abord, la reconnexion à la nature, vue comme un antidote au stress, à la déconnexion numérique, un retour à l'essentiel. Et puis, cette question finale, réussir dans la vie ou réussir sa vie, qui invite à redéfinir le succès au-delà du matériel, en valorisant plus les liens, les émotions, la paix intérieure.
C'est fascinant de voir ce rayonnement. Mais alors, concrètement, comment on les développe, ces fameuses soft skills? Le dossier parle d'ateliers, de formations?
Oui, il y a un article « Terrain d'éveil » qui décrit ces ateliers comme des laboratoires d'éveil, des bulles de transformation. Des endroits où on apprend à gérer ses émotions, à pitcher une idée, à sortir de sa zone de confort, quoi. Les témoignages sont forts. Des étudiants paralysés qui s'ouvrent, des pros expérimentés qui réapprennent à communiquer.
Il y a même un guide pratique qui liste 10 compétences clés. Intelligence émotionnelle, communication claire et bienveillante, collaboration, leadership, la posture, pas le grade, gestion du stress, flexibilité, prise de parole, gestion du temps, sens du service et l'envie d'apprendre.
Et une application très pratique est donnée pour les candidats au BACSA, la gestion du stress avec l'exemple d'Haussmann et sa respiration, l'organisation comme Salma et son planning, l'attitude positive comme Mehdi à l'oral. C'est présenté comme de vrais alliés pour réussir l'examen, mais utile pour toute la vie en fait.
Et on voit aussi des initiatives locales émerger, comme ces ateliers d'art d'achat avec Sophia Rabat. L'approche a l'air originale. Le rire, le lâcher prise, la méditation, les jeux de rôle.
Oui, pour travailler le bien-être et les soft skills dans une ambiance conviviale, les participants parlent d'un effet d'art d'achat durable. Leur slogan c'est « mieux rire, mieux vivre ». Ça résume bien.
Bon, on arrive à la fin de cette exploration vraiment très, très riche. Ce qui ressort clairement de ce dossier des MAG, c'est que les soft skills au Maroc, ça dépasse largement la simple compétence pro sur un CV. On touche vraiment à l'humain, au bien-être individuel, collectif. C'est comme le moteur d'une transformation sociale discrète mais profonde.
Oui, c'est une lecture très juste. Et peut-être, pour conclure, une pensée à méditer. Si on est d'accord que cet investissement dans les compétences humaines est crucial pour l'individu, pour l'entreprise, que se passerait-il si cet engagement devenait plus collectif, plus national, au-delà de l'employabilité? Est-ce que valoriser vraiment l'écoute, l'empathie, la communication authentique à l'échelle de toute la société, est-ce que ça ne pourrait pas aider à apaiser certaines tensions qu'on a évoquées, l'hypocrisie, la fracture générationnelle, et contribuer finalement à bâtir un Maroc qui se reconnecte plus profondément à ses propres valeurs humaines?
C'est une question essentielle en effet. Ça ouvre de nouvelles perspectives. Merci d'avoir partagé cette analyse avec nous. Et merci pour votre écoute. À bientôt pour une nouvelle exploration.